Université.
Aujourd'hui, c'est Marie Astier et Pauline Rousseau qui sont au micro. Salut à toutes les deux.
Salut.
Salut.
Si vous êtes ici, c'est pour nous parler de deux spectacles qui nous attendent ce jeudi à Bordeaux-Montaigne. Il y a d'abord Chronique, c'est présenté par la Compagnie en carton avec toi Marie.
Oui.
Et celle qui voulait qu'on la regarde disparaître et pas qui ne voulait pas qu'on la regarde disparaître, il y a une petite coquille sur le site de l'université, c'est proposé par le collectif L'Inverso, c'est comme ça que ça se prononce.
Tout à fait.
Ok, très bien. On va parler de tout ça en détail, on a le temps aujourd'hui. Déjà dans un premier temps, Marie et Pauline, est-ce que vous pourriez vous présenter puis nous parler un petit peu de votre parcours artistique?
Bien sûr.
Alors qui veut se lancer?
Allez,
Pauline.
Je démarre. Eh bien moi je m'appelle Pauline Rousseau, je suis metteuse en scène de théâtre. Alors moi j'ai un parcours plutôt universitaire au départ puisque j'ai fait une prépa lettres et puis ensuite des études en espagnol et en théâtre. Et j'ai d'ailleurs enseigné à l'université Bordeaux-Montaigne, donc j'espère que je retrouverai mes anciennes étudiants et étudiantes dans la salle. Voilà, et puis dans mon parcours donc, je me suis finalement dédiée au théâtre avec la création en 2019 de l'Inverso Collectif. Un collectif de théâtre pluridisciplinaire engagé sur des créations contemporaines qu'on écrit en général à partir d'un travail de plateau, hein, donc d'improvisation, de travail voilà, d'écriture collective. Collectif d'ailleurs dont fait partie Marie Astier qui est à côté de moi, qui est comédienne. Et là, ce spectacle, celle qui voulait qu'on la regarde disparaître, on l'a créé avec Claire Bézuel, qui est co-directrice et artistique de l'Inverso Collectif, qui est comédienne et voilà, avec qui on a eu envie d'aborder cette question des troubles du comportement alimentaire et de l'anorexie-boulimie.
Très bien, on rentrera dans les détails évidemment, mais Marie, dis-nous tout sur toi et sur la Compagnie en carton.
Alors moi depuis pas très longtemps j'ai décidé de me définir comme artiste-chercheuse, parce que comme Pauline j'ai une casquette aussi universitaire et une casquette artistique. Et la Compagnie en carton je l'ai fondée en 2013, et avec l'idée que le carton c'est un matériau fragile, et j'avais vraiment envie de défendre la vulnérabilité comme une valeur esthétique et politique. Et l'autre aspect de la compagnie, c'est que bah, le décor peut se mettre rapidement dans des cartons et jouer dans des lieux pas spécifiquement dédiés, comme bah, par exemple dans des écoles, dans des universités, dans des mairies, dans des hôpitaux. Et le travail que je mène depuis un moment, c'est bah, vraiment de déconstruire les préjugés qu'on peut avoir sur la maladie et le handicap. Et j'avais un peu peur à un moment de m'enfermer dans cette étiquette-là. Et ça fait depuis pas très longtemps que j'assume d'avoir des choses à dire avec ce sujet et sous différentes formes.
D'accord, donc la Compagnie en carton, voilà, avec des décors en carton, c'est bien ça?
Bah, ils sont pas forcément en carton,
pas
les décors.
D'accord.
Disons qu'on peut tout mettre dans des cartons. Et,
ah, c'est pour ça.
Et en fait, depuis pas longtemps, je me suis rendu compte que l'expression être en carton, c'est un peu être en toc. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas le meilleur nom de compagnie. C'est pour ça que j'explique un peu pourquoi. Le pourquoi du comment du nom, quoi.
Oh, généralement, avec l'art, on comprend le second degré. Très bien, alors voilà, on le rappelle, ce jeudi 7 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu le lendemain, c'est bien ça, c'est vendredi. Mmh, mmh. Vous nous proposez deux spectacles à l'auditorium de la Maison des étudiants à Bordeaux-Montaigne. À 19h, il y a Chronique, donc de la Compagnie en carton, et ensuite celle qui voulait qu'on la regarde disparaître à 20h30. On va commencer chronologiquement. Chronique,
ouais.
Ça parle de quoi comme spectacle?
Eh ben, Chronique, ça parle de qu'est-ce que c'est que grandir avec une maladie chronique invisible dans les années 90-2020. Et c'est un spectacle auto-fictionnel, donc en gros je pars de ma propre histoire. Et c'est aussi comment une vocation de comédienne, ou en tout cas de quelqu'un qui veut faire du théâtre, est liée à ça. Voilà, ça tisse les fils de la maladie et du théâtre. Et normalement, toutes les personnes qui sont nées dans les années 90 devraient se reconnaître, parce que ça parle aussi d'une génération. On n'accède pas à l'information de la même façon aujourd'hui que dans les années 90. Et il y a aussi le spectateur et la spectatrice comprend l'univers dans lequel on est grâce au son, parce que vraiment on a une bande son qui retrace les années 90-2020, je n'en dis pas plus, venez. Et juste un truc, c'est un spectacle sous forme d'épisode, il y a 4 épisodes, et là, jeudi, ça sera le premier, donc c'est globalement de 18 mois à l'entrée en 6e, et voilà comment on
D'accord.
vit avec ça.
Donc chaque épisode, c'est vraiment une tranche de vie, une décennie en gros.
Ouais, et bah non, c'est pas une décennie.
Enfin, moins qu'une décennie.
Bah en fait, on s'est vraiment posé la question, mais à chaque fois que chaque épisode, c'est 40 minutes. Mais 40 minutes, ça peut recouvrir 10 ans, comme ça peut recouvrir 3 mois.
D'accord.
Et c'est aussi pour faire rentrer dans la temporalité subjective du personnage principal.
Alors Pauline, présente-nous la pièce, celle qui voulait qu'on la regarde disparaître, puis on revient à Chronique ensuite.
Alors, celle qui voulait qu'on la regarde disparaître, c'est un seul en scène qu'on a écrit donc avec Claire Bézuel, dont Luc Montaudon compose la musique. On est parti avec Claire de cette question des troubles du comportement alimentaire, qui est une question que Claire connaît bien puisqu'elle en a souffert de nombreuses années. Et on est aussi, donc on avait envie de traiter ce sujet d'un point de vue intime, un peu comme peut le faire Marie dans Chronique, c'est-à-dire du point de vue du vécu, mais aussi d'un point de vue politique et systémique, d'où notre choix de faire de Laurence le personnage donc qui incarne cette fiction qui la raconte, une jeune mannequin, une jeune femme qui est reconnue très tôt, vers 12-13 ans, et qui commence une ascension fulgurante dans le monde de la mode, et au gré de son ascension, en cherchant toujours à être la meilleure, elle va développer un sévère trouble de comportement, de trouble du comportement alimentaire. Cette histoire, on l'a construite du coup à partir, donc je le disais, d'un vécu intime et puis de très nombreuses biographies et autobiographies de mannequins, citées notamment dans l'ouvrage de référence Beauté fatale de Mona Chollet, qui parle vraiment de cette dimension systémique de la maladie, de ce qu'elle appelle le complexe mode beauté, et de comment les injonctions qui pèsent systématiquement, notamment sur les corps des femmes, notamment l'injonction bien sûr à la minceur, qui n'a pas entendu une femme dire qu'elle faisait un régime pour la énième fois, pèsent très lourd et peuvent provoquer de sévères troubles. C'est aussi un spectacle qu'on joue à la fois en salle et en milieu scolaire, qui trouve un écho très important chez les jeunes. Et voilà, c'est une fiction d'une heure et qui met en jeu aussi, comme Marie le disait, hein, on n'a pas les questions de nos générations et notamment les réseaux sociaux, puisque Laurence est très active sur les réseaux et a toute une communauté qui la suit, avec qui elle va interagir pendant le spectacle.
Quand on parle des troubles du comportement alimentaire, ça comprend l'anorexie ou ça va plus loin ?
Alors c'est à la fois l'anorexie et puis son pendant, la boulimie. L'anorexie étant le fait de se priver de nourriture, et la boulimie son pendant qui va souvent ensemble, c'est-à-dire des excès d'alimentation très, très importants. Et puis plus généralement, je dirais que le rapport à l'aliment est un peu le symptôme de la maladie. Et nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la question en fait du contrôle que pose cette maladie. C'est-à-dire que l'idée, c'est de contrôler absolument tout, y compris son alimentation en tant que puissance vitale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une réelle asservissement à cette question du contrôle, et qui peut nous ramener là aussi à une injonction à être toujours plus performant, toujours plus, toujours mieux, toujours meilleur.
Alors je reviens à toi Marie avec Chronique qui commence à 19h ce jeudi. Donc Chronique, tu l'as dit, ça joue d'abord sur les mots entre l'adjectif et le nom. Mais surtout donc ça parle d'une maladie et c'est la cystinose. Est-ce que tu peux nous en parler de cette maladie ?
Oui, c'est une maladie dite orpheline. Donc c'est une maladie très rare. En France on est 350 personnes à peu près à l'avoir. Et bon, je vais pas trop développer puisque c'est tout le sujet du spectacle, mais du coup c'est quand même cette chose qui est voilà, une maladie invisible, et ce qu'on montre dans Chronique c'est que du coup c'est à la personne concernée de le dire, comment elle le dit, à qui elle le dit, pourquoi elle le dit, et avec cette peur du regard des autres, en tout cas cette appréhension. Et par rapport à celle qui voulait qu'on la regarde disparaître, nous, on est parti sur vraiment l'autofiction et sur tout un travail sur l'archive, en fait. J'ai retrouvé mon journal intime de quand j'étais jeune, des comptes rendus médicaux, des lettres, et on fait vraiment dialoguer l'expertise médicale et l'expérience du patient. Et je dis « on » parce que le spectacle, je l'ai créé avec Ulysse Caillon, qui était à la dramaturgie. Et sur scène, on est deux. Donc moi, je joue mon propre rôle. Et Ulysse joue les médecins, les camarades de classe. Il ne peut pas être là jeudi, donc il est remplacé par Simon Gagnage. Mais voilà, c'était important pour moi qu'on soit deux au plateau et que ce ne soit pas juste un seul en scène, pour montrer aussi l'importance des aidants, d'une certaine façon. Et sans Ulysse, c'est sûr que le spectacle n'aurait jamais existé, parce que c'était important d'avoir quelqu'un pour faire émerger cette parole, pour la mettre en forme. J'ai écrit, mais sans lui, c'est sûr que je n'aurais pas pu écrire.
Donc on le rappelle, ce jeudi, ce sera l'épisode 1 qui s'intitule « Les reins, c'est comme les passoires ».
Ouais, c'est un extrait du spectacle. C'est vraiment en CP quand j'ai décidé de faire un exposé pour expliquer. Bah voilà, c'est aussi une question de langage, comment on explique à des enfants de 6 ans la maladie. Et voilà, et pour répondre à la question, c'est une maladie qui touche particulièrement les reins. Et du coup, j'avais pris vraiment la comparaison des passoires en disant, bah, y a des bonnes choses qui restent dans le sang et les mauvaises choses, elles vont dans le pipi. Et moi, comme mes passoires sont cassées, bah, y a des bonnes choses qui partent dans le pipi et il faut les reprendre sous forme de médicaments. Et voilà, et on voit aussi au fur et à mesure des épisodes comment le langage évolue et comment les mots pour désigner la réalité varient. Et parce que c'est aussi avec ça qu'on grandit et ça montre vraiment l'importance du langage pour nommer une réalité qui n'est pas facile à... Enfin, pas facile. Oui, qui n'est pas forcément facile à vivre.
Et comment vous avez imaginé l'œuvre dans sa globalité à travers les 4 épisodes ? Parce que donc, tu l'as dit, tu veux parler donc, du point de vue du patient, de la maladie, avec le point de vue médical aussi. Mais tu l'as dit aussi, c'est tout. Comment on se construit dans les années 90, dans les années 2000. La communication n'est pas la même. Dans les débuts des années 2000, on est ado. Quand on a la trentaine aujourd'hui, donc il y a MSN.
Parle beaucoup avec les autres.
Et justement, on ne maîtrisait ni Internet, ni comment doser son intimité avec les autres. Vous en parlez de ça dans le spectacle ?
Ouais, bah complètement. Bah MSN, il y a MSN. Et en fait, donc c'est chronique, donc c'est-à-dire que c'est dans l'ordre chronologique. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, 40 minutes, ça peut être une décennie comme 2 mois. Et on a essayé de trouver les grandes ruptures là-dedans. Donc en gros, l'épisode 1, c'est vraiment des 18 mois à la 6e où là, c'est apprendre. Enfin, c'est surtout les parents qui disent que t'as une maladie, tu prends bien tes médicaments, voilà, t'acceptes. Après, il y a vraiment la rupture. L'épisode 2, c'est vraiment la rupture de pas prendre ses médicaments. La crise d'ado, en fait. Et là, justement, on passe de MSN à aller sur des blogs spécialisés où là, on n'est plus du côté de l'ado qui parle sur MSN, mais on est du côté de la personne malade qui va chercher des infos sur sa maladie sur des blogs à l'époque. Après, l'épisode 3, bah, c'est... Je spoil pas parce que c'est écrit. C'est vraiment quand j'ai dû faire de la dialyse et quand j'ai été transplantée, parce que j'ai été greffée d'un rein à 15 ans. Voilà, c'est encore autre chose dans son rapport au corps, dans son rapport à son identité, à avoir quelqu'un d'autre en soi aussi, d'une certaine façon. Et au début, on avait créé que ces 3 premiers épisodes et on l'a présenté dans un collège-lycée. Et c'est les élèves eux-mêmes qui nous ont dit qu'il manquait un 4e épisode pour que la boucle soit bouclée.
Okay.
Et en fait, le 4e épisode, c'est la vie après la greffe, où justement, c'est moins... Enfin, vraiment, l'épisode 3, on dirait un épisode d'urgence, quoi. C'est vraiment genre... Ça se passe à l'hôpital, il y a plein de rebondissements et tout. Et l'épisode 4, c'est juste qu'est-ce que c'est que la vie quotidienne avec une maladie qui impose de prendre des médicaments matin et soir et avec des contre-indications, etc. Et c'est aussi, on a recentré sur... moi, quand j'ai passé le bac, par exemple, j'avais un tiers-temps. J'ai dû aller à la MDPH, à la Maison départementale des personnes handicapées. Et du coup, c'est comment vivre avec cette étiquette de handicap alors qu'on ne se sent pas handicapé, qu'il n'y a aucun stigmate physique. Et voilà, c'est une question plus subtile, dans le sens où c'est moins visible, mais on avait quand même envie de questionner cette chose-là et de montrer cette réalité-là, qui n'est pas impressionnante, mais qui fait quand même partie du quotidien de plein de gens, parce qu'il y a quand même 20 millions de personnes en France qui vivent avec des maladies chroniques. Donc pour nous, c'était aussi important de montrer ça. Et on pense que même si c'est centré sur ma maladie, en fait, ça parle quand même à d'autres personnes qui peuvent vivre avec partager un certain nombre d'expériences.
Donc Chronique épisode 1, c'est à découvrir ce jeudi 7 mars à l'auditorium de la Maison des étudiants à Bordeaux-Montaigne. C'est très simple, quand vous êtes sur le campus, vous allez tout à gauche dans une sorte de couloir un peu mi-couvert avec des amphis, et c'est tout au bout, voilà, de toute façon c'est indiqué. Pour celles qui voulaient qu'on la regarde disparaître, j'ai rayé les mentions qu'il fallait. Pauline, comment vous l'avez travaillé et mis en scène, cette pièce ? Donc c'est un seul en scène, mais comment ça va se présenter ?
Alors c'est en effet un seul en scène, donc ça commence, Laurence est face à son ring light pour sa vidéo tuto du jour, et elle annonce qu'aujourd'hui elle ne fera pas de conseils beauté, mais elle va raconter son histoire et notamment comment elle a sombré dans les troubles du comportement alimentaire. Et voilà, comme le disait Marie, je crois qu'il y avait l'envie de travailler sur une maladie qui est quand même très répandue, surtout en constante augmentation, qui touche beaucoup les jeunes filles, qui est une maladie qui est souvent minimisée ou décriée, en gros, beaucoup de jeunes filles qui sont mal prises en charge, et de jeunes hommes, ça touche quelques garçons aussi un peu moins, font état du fait que on leur dit oh bah t'as qu'à manger, ou t'as qu'à arrêter de vouloir être mannequin, ou t'as qu'à et de prendre un peu la dimension collective et politique de cette maladie. Donc comment on l'a écrit, comme je disais tout à l'heure, à partir de témoignages et puis du point de vue de la mise en scène, tout l'enjeu ça a été de travailler une dimension ludique de ce spectacle, de travailler cette adresse très directe. Donc en fait, on suit Laurence de ses 12 à ses 23 ans. Donc c'est un petit peu construit comme chronique, comme des épisodes à l'intérieur. Donc à 12 ans, elle est repérée. À 14 ans, elle fait ses premiers shootings et on commence commenter ses formes, à se demander si elle risque pas de prendre trop de poids. Puis à 16 ans, elle veut vraiment être la meilleure. À 18 ans, elle est la meilleure. Elle est enfin en haut de l'affiche, dans les plus grands. C'est la plus grande mannequin de l'agence. Et elle est en même temps dans une forme de solitude et d'isolement total. Il y a un événement qui va faire bascule dans sa vie. Elle va reprendre contact justement d'abord avec ses followers, avec les gens qui la suivent sur les réseaux, en répondant en fait aux messages qui lui sont adressés. Et puis ensuite, elle raconte entre ses 21 et ses 23 ans comment elle se remet doucement sur le chemin d'une guérison, ou comme dit Marie, plutôt peut-être d'un vivre avec. C'est-à-dire que voilà, c'est aussi à la fois porter le message, et notamment quand on joue en milieu scolaire, et ça résonne très fort, que oui, on peut s'en sortir, pas tout seul, pas en se faisant aider, en se faisant accompagner, et qu'en même temps, il y a une forme de vivre avec qu'il faut construire individuellement et collectivement.
Donc là aussi, dans votre pièce, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Il y a évidemment le thème de l'anorexie, mais aussi toute la critique sur les critères du mannequinat, les causes de l'anorexie, puis sur cette image forcément qui est modelée, photoshopée dans les pubs, dans Absolument. Le marketing du corps de la femme, comment elle doit être, et forcément ça touche dès l'adolescence les petites filles. Donc là voilà, c'est là où les deux pièces se rejoignent justement avec ça. Donc là on a quand même deux visions différentes, avec plutôt 90-2000 dans Chronique. Pour le collectif L'Inverso, on est plutôt dans les réseaux sociaux avec Instagram.
Oui,
ok.
Dans 2000.
Ouais, c'est 2000, ça. 2000. Mais en fait, les mots sont quand même là, quoi. Ça a changé,
tout
justement, ces critères de comment une femme doit être pour faire du mannequinat, ou comment faire du mannequinat, genre sur Instagram. Est-ce que c'est différent? Est-ce que ça cause
Alors,
les mêmes choses?
Je dirais que oui, ça a changé forcément, et ça n'a pas tant changé que ça dans le fond, paradoxalement. C'est-à-dire que les réseaux ont ouvert énormément les espaces de discussion. Aujourd'hui, je pense que des jeunes concernés peuvent trouver beaucoup de ressources en ligne de tout type. C'est-à-dire qu'en ligne, il y a des groupes pro-anorexie, qui s'appellent comme ça. Il y a des groupes qui essaient de lutter contre, d'alerter sur cette maladie. Enfin, c'est que maintenant, on trouve vraiment de tout. Après, justement, on s'est demandé à la création du spectacle avec l'herbésuel si on n'avait pas une image trop années 90 du mannequinat. Et si, justement, parce qu'il y a quand même eu des lois qui ont imposé notamment que les mannequins soient pesés avant les défilés. Mais en fait, on se rend compte que par les témoignages actuels et puis par les images qui circulent partout, que ça n'a absolument pas changé, et que l'image, c'est toujours... Et c'est ce que racontent beaucoup de mannequins. Elles disent, en fait, on n'est pas des femmes, parce qu'on cherche aussi à abolir toute forme toutes les formes, justement, hein, les seins, les fesses, les hanches, je veux dire, on n'est pas des femmes, on est des cintres. Et c'est ce que voilà, beaucoup de mannequins vraiment racontent cette injonction en permanence à une minceur très non naturelle aussi, c'est-à-dire que parce qu'elles sont là, enfin c'est le vêtement qui doit être mis en valeur, c'est pas elles.
Pauline et Marie, qu'est-ce que vous aimeriez que le public en retienne de ces spectacles? Parce que forcément, on va y avoir plein de profils dans le public, des gens qui sont concernés, des gens qui découvrent, des gens qui ne connaissaient pas du tout ces sujets. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils repartent avec en sortant?
Moi, je crois que j'aimerais leur faire vivre de l'intérieur ce que c'est que vivre avec une maladie dont la définition est dont on ne guérit pas. Et en fait, pour plein de personnes, déjà, rien que ça, ça paraît ne pas exister. Qu'en fait, aujourd'hui, il existe encore des maladies dont on guérit pas, et c'est pas une tragédie. C'est pas grave, c'est juste, bah, comme l'a dit Pauline, comment on vit avec et comment ça fait partie de son identité. Et on se construit avec ça, quoi. Je crois que c'est ça.
Pauline ?
Oui, je crois que ce que dit Marie est important. Moi, j'ai envie aussi que le public reparte avec des questions, des interrogations, peut-être des endroits de résonance avec son histoire ou l'histoire d'un ou d'une proche, avec peut-être un peu plus d'outils aussi. Je crois que le théâtre est aussi un lieu pour dire des choses dont on parle peu ou qu'on va dire différemment que dans la vie, de prendre ce temps pour porter une parole qui est finalement peu entendue et qu'elle entre effectivement en dialogue avec le public. Et puis qu'il et elle se fassent plaisir aussi. Voilà.
Et est-ce que c'est pareil de grandir, d'évoluer, de se construire quand on est malade et qu'on est un garçon et qu'on est un homme ensuite? Parce quand on pense à l'anorexie, on pense forcément aux femmes. Il y a quelques hommes qui sont
touchés,
mais est-ce que c'est pareil, voilà, d'évoluer à travers la maladie quand on est un homme par rapport à une femme?
Alors, bah, je pense que de toute façon, et justement, c'est aussi quelque chose que porte le spectacle, c'est que chaque maladie est différente et chaque personne le vit aussi à son endroit individuellement. Enfin, il n'y a pas l'anorexie de A n'est pas celle de B qui n'est pas celle de C. Et justement, parfois, une certaine vision du soin, notamment psychiatrique, pourrait avoir tendance à vouloir normer ce rapport à la maladie. Je pense que c'est sûrement différent quand c'est un homme et quand c'est une femme. Il y a aussi énormément de points communs. Et puis, peut-être, je ne sais pas, mais encore plus de honte pour les garçons. Voilà, c'est aussi des maladies qui sont justement peu reconnues, souvent invisibilisées, et donc c'est peut-être paradoxalement, comme il y a moins de garçons concernés, encore plus invisibles pour eux, quoi.
Marie, t'es d'accord avec Pauline ?
Oui, je suis tout à fait d'accord, et je réfléchissais en même temps. Je me dis, mais c'est une impression que une maladie qui vient affaiblir le corps, quand la masculinité hégémonique est quand même encore construite sur le corps puissant, peut-être que c'est encore plus difficile à vivre pour un garçon quand son corps fait défaut et qu'on peut pas compter dessus, ou en tout cas peut-être un peu différemment que quand on est une fille. Après, je pense qu'il y a malgré tout, comme disait Pauline, des points communs dans l'expérience de grandir avec et de à qui on le dit, comment on le dit, comment on le partage en fait.
En tout cas, Chronique et celle qui voulait qu'on la regarde disparaître, c'est à voir ce jeudi 7 mars sur le campus de Bordeaux-Montaigne à l'auditorium de la MDA. Ça commence à 19h pour Chronique et 20h30 pour celle qui voulait qu'on la regarde disparaître. Pauline et Marie, merci énormément d'être venues nous parler de ces deux pièces et de tous ces sujets qui sont passionnants. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
Beaucoup de monde.
Ouais, oui, très bonne idée. Beaucoup
ça le comble.
Et puis de beaux échanges aussi, parce qu'on l'a pas dit, mais évidemment, il y aura un temps d'échange avec les artistes et les comédiens et les collectifs.
Tout à fait.
Voilà. N'oubliez pas, c'est sûr. Alors, c'est gratuit, mais c'est sur inscription quand même, pour être sûr que ce soit pas surblindé pour des raisons de sécurité. Donc, rendez-vous sur le site de l'Université de Bordeaux-Montaigne. Dans l'agenda culturel, notamment, vous avez les liens. Tout est super clair. Voilà. Pauline et Marie, merci encore. Et très bonne représentation et à bientôt.
Merci beaucoup. À bientôt.